Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Des hommes qui distribuent une aumône aux passants et sèment la mort, des feux de cases mystérieux, des SMS tueurs, de faux vaccins contre la peste ou encore des voleurs de sexe, autant de folles rumeurs et de vraies hystéries collectives jamais freinées par l'urbanisation. Eh bien, nous allons parler justement de ces rumeurs dans les villes africaines. Comment expliquer la vitalité de ces rumeurs? Que racontent-elles sur les sociétés et la vie entre voisins? Peur des étrangers, crise de la masculinité, rôle des médias, les rumeurs urbaines sont un puits sans fond qui interroge à la fois le discernement collectif. Un journaliste de la presse populaire au Sénégal a eu cette merveilleuse formule « même si nous croyons, nous ne croyons pas ». Eh bien, on va en discuter avec l'anthropologue Julien Bonhomme qui décortique, analyse ces phénomènes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des rumeurs urbaines, pas que urbaines d'ailleurs. Vous avez publié il y a quelques années un ouvrage remarqué sur les voleurs de sexe. Vous étiez venu en parler d'ailleurs dans l'émission. Et vous avez enquêté sur des pays très différents. Aujourd'hui, vous récidivez avec l'offrande de la mort, une rumeur au Sénégal, avec un autre anthropologue, Julien Bondaz. On sera également en ligne avec notre correspondante à Conakry, Coralie Pierret. Et quant à vous, les voisins, quelles sont les rumeurs qui ont embrasé votre ville récemment? Comment la rumeur peut-elle conduire même au lynchage de présumés coupables? Nous attendons vos témoignages et vos interprétations. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je lis quelques messages, Julien Bonhomme, que vous pouvez bien sûr commenter. Réaction dédiée à Bamako, notre quotidien, ce sont les rumeurs. Mamadou, à Bamako aussi, nous dit qu'il suffit qu'un individu lève la voix en disant « au voleur » et c'est toute une nuée de personnes qui s'abat sur l'accusé. Très souvent, après avoir commis l'irréparable, eh bien on se rend compte, écrit Mamadou, que celui qui vient d'être lynché était innocent. Pour la plupart du temps, ces individus accusés sont brûlés vifs. Saliou est à Abuja et nous dit qu'au Nigeria, c'est la forme de justice qui calme les nerfs car la police ne répond pas à ses obligations. Babacar est à Dakar et il nous dit « Moi, je n'accorde jamais d'importance au « on dit, j'ai entendu, il paraît ». C'est vrai que c'est un réel problème dans nos sociétés, dans nos villes, dans nos quartiers. » John Fabé est à Abéché, au Tchad. Il nous dit qu'il a assisté à une scène la semaine dernière. « Mon voisin était gravement malade au point de mourir, mais il criait le nom d'un vieil homme du même quartier. Il criait que son âme était chez lui. Le vieil homme a été tabassé et mon voisin a retrouvé sa santé. » Ça, ce sont des histoires très classiques, quasiment toutes les semaines, non?
Oui, oui, il y a effectivement énormément de rumeurs. Moi, je me suis focalisé sur quelques cas, mais il y en a vraiment une foultitude. Le premier témoignage que vous avez lu, le raconte bien, parce que c'est des choses qui circulent par le bouche à oreille, mais aussi beaucoup par la presse, et de plus en plus sur Internet, donc c'est vraiment un type d'information, vrai ou faux, c'est souvent ce qui est en débat, mais qui circule tout à fait quotidiennement, d'ailleurs en Afrique comme partout ailleurs dans le monde.
Ouais, ça n'est pas une spécialité africaine, la rumeur, il faut bien le préciser, ouais. Vous êtes spécialiste de l'Afrique.
Je suis spécialiste de l'Afrique, mais j'aurais pu mener des travaux relativement similaires sur des rumeurs ailleurs, par exemple sur des légendes urbaines, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Et la deuxième réaction que j'aurais, c'était par rapport à une série d'autres témoignages par la suite, les liens qui immédiatement fait entre les rumeurs, la rumeur et la violence. Et effectivement, très souvent, ces rumeurs, au-delà des histoires que l'on va raconter, suscitent, ont des conséquences bien réelles, puisqu'elles éveillent la suspicion, accusations publiques et parfois des violences. Et donc ça renvoie aussi, travailler sur ces rumeurs est une manière aussi de travailler sur les violences urbaines, les lynchages, la justice dite populaire et la façon dont on va réagir à ces phénomènes-là.
Exactement, il y a le témoignage de Sandro aussi qui poste de Madagascar sur Facebook. Dans la ville de Mananjari sur la côte ouest de l'île, on a eu le cas d'une femme qui aurait profané une terre sacrée en y emmenant du porc. Résultat, elle a été tabassée, brûlée vive. Retour au Moyen-Âge.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Hein?
Alors avant qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle du Tchad, Julien Bonhomme, pour un journaliste occidental, c'est toujours compliqué de recevoir un anthropologue comme vous sur les phénomènes irrationnels, parce que en principe, les journalistes sont payés pour enquêter, pour démontrer que rien n'est vrai dans ces rumeurs, si ce n'est le lynchage qui lui est bien réel, la conséquence de la rumeur quand cela atteint son paroxysme. Mais pour l'anthropologue que vous êtes, la question n'est pas de croire, mais de comprendre pourquoi les gens y croient.
Oui, c'est souvent... D'ailleurs, une des façons d'aborder la rumeur est de montrer qu'elle est fausse. Mais à la limite, c'est pas ça le plus intéressant, parce qu'une fois qu'on a dit qu'elle est fausse, on n'a pas commencé à expliquer pourquoi est-ce qu'elle a eu une telle importance sociale. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement si ces rumeurs-là, ces histoires-là ont été si bonnes à raconter pour les intéresser eux-mêmes, est-ce que c'est pas en fait parce que finalement elle est bonne à penser pour comprendre tout un ensemble de phénomènes, de faits sociaux plus larges et qui paraissent peut-être moins anecdotiques. On a évoqué par exemple la violence populaire, le rapport aux étrangers ou des choses de ce type-là. Évidemment, les conceptions de la masculinité, de la virilité pour la rumeur des voleurs de sexe sur lesquelles j'avais travaillé précédemment. Donc finalement, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, souvent je tiens quand même à préciser que ces rumeurs-là sont fausses. Pourquoi je tiens à le préciser puisque dans la mesure où des gens sont accusés et parfois lynchés, autant voilà, ne pas risquer soi-même de participer à la propagation et à des événements malheureux comme ces violences-là. Mais ce n'est pas ça finalement le plus intéressant pour un anthropologue, c'est d'essayer de comprendre dans quel contexte elles circulent, pourquoi elles circulent et qu'est-ce qu'elles nous disent sur les sociétés au sein desquelles elles circulent.
Alors on reviendra sur les voleurs de sexe, sur les SMS tueurs et puis sur la fameuse offrande de la mort, une rumeur au Sénégal qui a eu lieu en 2010, qui a été une traînée de poudre d'une incroyable vitalité. On donne la parole à un auditeur, Osana, qui est à Bébéto, dans le sud du Tchad. Bonjour, Osana.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour aux invités.
Alors, vous souhaitez nous parler d'une rumeur ?
Oui, il y a à peu près un mois qu'une femme dans ma localité a été sauvagement abattue parce qu'elle aurait été accusée d'avoir enlevé l'âme d'un garçon pour se faire riche. Et le plus souvent, des rumeurs sans preuve... sur des rumeurs sans preuve, on tue les gens chaque fois qu'une personne meurt. Et j'ai vécu moi-même ces problèmes. Lorsque mon oncle était décédé, les membres de la famille voulaient accuser un vieux du village parce qu'ils pensent que c'est lui qui aurait été à l'origine de la mort de mon oncle. Mais je me suis opposé avec des arguments parce que Alors, sur des bases de rumeurs, il ne faut pas ôter la vie d'un homme. Malgré tout ça, ils ont insisté et voulant vaille que vaille accomplir leur forfait, je suis obligé de contacter la police. Et c'est comme ça que le vieux a échappé à la mort. Alors, je demande aux autorités de mon pays de prendre ce problème en main. Sinon, c'est difficile. À chaque fois, on tue des gens, on ôte la vie des gens sans aucune preuve. Et cela fait que c'est tellement compliqué, quoi. Au lieu de comprendre que l'homme est mortel, donc tout homme doit mourir. À chaque fois qu'un homme disparaît, il faut qu'un autre homme aussi disparaît. On tue des gens. Vraiment, c'est difficile, quoi. Donc, c'est compliqué ici dans mon pays.
Ça, vous êtes sur une analyse rationnelle, l'homme est mortel. Hein, mais effectivement, dans votre village, apparemment, ça n'est pas le point de vue le plus partagé. Sur le rôle de la police, là, en l'occurrence, c'est la police qui s'est interposée et qui fait que ce vieil homme n'a pas été lynché, et pour cause, il n'était en rien coupable de la mort de votre oncle. Merci, Osana, de nous avoir appelé pour ce témoignage. Julien Bonhomme, il y a d'autres cas où, au contraire, c'est l'inefficacité des forces de l'ordre qui conduisent à l'exaspération, comme le disait un internaute, et qui conduisent au lynchage, bien souvent sur des innocents. Donc c'est dans l'autre sens, sur l'absence de l'inefficacité de la police.
Évidemment, ce qui est derrière ces questions de lynchage et de justice populaire, c'est le rapport des populations, souvent des quartiers pauvres, à la justice et aux forces de l'ordre et à la police. Et donc à la présence ou à l'absence justement de forces de police, y compris pour gérer des larcins plus quotidiens, des violences plus anodines, ou la défiance par rapport à des forces de l'ordre dont on juge, pour des raisons, enfin que ça soit vrai ou faux, qu'elles sont corrompues, qu'elles sont inefficaces, qu'elles sont au service des puissants. Donc c'est ça qui est en jeu derrière cette justice dite populaire. C'est un rapport souvent de défiance face aux institutions de la justice et de la police dans ces sociétés-là.
Ouais. Alors vous avez écrit aussi sur les voleurs de sexe ou encore les SMS tueurs.
Oui, alors dans les séries de rumeurs sur lesquelles j'ai travaillé, il y a en effet cette histoire de numéro de téléphone portable qui tue, qui est une rumeur que j'avais croisée, là encore par hasard, sur le terrain lorsque j'étais au Gabon, mais qui en fait était née quelques mois plus tôt au Nigeria, au début des années 2000, je ne me souviens plus exactement de l'année, et qui à nouveau avait été diffusée comme une traînée de poudre dans une partie de l'Afrique, Nigeria, Cameroun, etc., mais qui, là encore, de manière assez étrange, avait même circulé jusqu'en Asie, puisqu'elle avait circulé à partir de l'Inde, jusqu'en toute l'Asie du Sud, jusqu'en Asie, en Thaïlande et en Indonésie. Et donc, pour l'anthropologue que je suis, qui est plutôt habitué à travailler sur des phénomènes assez localisés, contextualisés, j'ai mené des terrains au Gabon, puis au Sénégal, on est aussi face à quelque chose qui nous pose un défi méthodologique, c'est comment enquêter sur ces rumeurs-là, qui circulent dans des contextes très locaux, mais qui en même temps peuvent avoir une extension beaucoup plus large. Et cette rumeur des numéros de téléphone tueur sur deux continents...
Du fait d'Internet, notamment, ou pas ?
Du fait d'Internet, du fait d'Internet et de manière assez ironique et paradoxale, du fait de la téléphonie mobile aussi. C'est une rumeur qui alertait des dangers de la téléphonie mobile, mais qui pouvait être relayée par SMS elle-même. Donc, ce qui donnait parfois des situations tout à fait cocasses où des gens voulaient alerter leurs proches du danger de la rumeur par SMS, mais les appels étaient bloqués parce que les gens se méfiaient des SMS qui pouvaient être
bloqués. Évidemment, ça a souvent des conséquences assez incroyables. Votre dernier livre, L'offrande de la mort, une rumeur au Sénégal. Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur une rumeur qui a touché le Sénégal en particulier pendant quelques semaines au plus, en janvier 2010, il y a plusieurs années donc, essentiellement à Dakar et ses banlieues? On peut qualifier cette rumeur d'étoile filante en somme.
Oui. Alors que les voleurs de sexe sur lesquels j'avais travaillé quelques années plus tôt, c'est une rumeur qui est née au début des années 70 au Nigeria et qui a circulé dans une vingtaine de pays, donc aujourd'hui depuis plus de 40 ans.
Ouais, on peut peut-être juste alors résumer, puisque vous parlez des voleurs de sexe, quel est le principe de la rumeur des voleurs de sexe ?
Selon cette rumeur, un inconnu, à la faveur d'un contact, soit un frôlement dans une foule par exemple, soit une poignée de main, serait capable de déposséder du sexe les personnes qu'il rencontre, généralement évidemment plutôt des hommes, donc soit leur voler complètement leur sexe, soit le faire rétrécir. Et donc là aussi, ça donne lieu à des suspicions, des accusations, et du coup la moindre rencontre qui se passe un peu mal, ou qui a l'air un peu bizarre, suspecte, va éveiller justement les suspicions, des accusations sur un marché, dans la foule d'un marché, juste comme ça, et du coup va là aussi avoir des conséquences bien réelles.
Quand le vol de sexe a lieu à des vérifications, c'est-à-dire quand on demande à celui qui se plaint de voir son sexe qui a disparu, de montrer que son sexe a bien disparu. Évidemment, comme par hasard, le sexe est toujours là. Et il dit « mais non, mais c'est parce qu'on me l'a rendu hein. ».
Oui, parce que généralement, ce qu'il faut voir, c'est que la première réaction n'est pas de vérifier. La première réaction est d'exercer des représailles contre le présumé coupable, la personne qui a été accusée. Et c'est dans un second temps qu'on va, à tête reposée, on va dire, une fois que les esprits sont calmés, qu'on va vérifier. Là, selon l'expression récurrente, le sexe est bien en place, mais on va pouvoir dire que c'est parce qu'il y a eu punition du coupable que le sexe est revenu. Donc, du coup, on ne peut même pas complètement invalider la rumeur par sa vérification a posteriori. My strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground. Oh,
Humanity Cuts Me Like a Knife, c'est Fada Freddy, chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en compagnie de Julien Bonhomme, anthropologue. Vous publiez L'offrande de la mort, histoire d'une rumeur au Sénégal. Alors, quelle a été exactement cette rumeur en 2010 qui a circulé pendant quelques semaines, qui a touché surtout Dakar et ses banlieues, mais pas que. Quel était exactement le scénario de la rumeur ?
Alors, le scénario racontait que un inconnu, généralement à bord d'une 4x4, une voiture 4x4 distribuait des offrandes. Alors il y a eu différents, comme toute rumeur, il y a des variantes, mais disons selon son scénario le plus courant, prototypique, cette offrande était composée de viande, d'argent, généralement un billet de 10 000 francs CFA qui est la plus grosse coupure en circulation.
15 euros.
Et il cliquait 25 euros. Et souvent également d'un tissu de percale, c'est-à-dire une cotonnade qui sert habituellement de linceul, qui évidemment évoquait symboliquement la mort. Et que ce don qui serait fait, d'ailleurs à des mendiants ou même à des passants qui n'avaient pas sollicité ce don...
Qui acceptent le paquet,
qui accepterait le paquet, dans un laps de temps indéterminé, en mourrait. En tout cas serait victime d'une crise et serait atteint par ce don, et donc on a typiquement une rumeur de cadeau empoisonné, un don qui au lieu d'être bénéfique à son donataire le tue.
Sauf que la rumeur ne dit pas explicitement qu'il s'agit de viande empoisonnée, ça pourrait être plausible d'ailleurs, il peut y avoir des faits divers avec une viande empoisonnée qui est distribuée, c'est pas dingue comme les voleurs de sexe.
Tout à fait, c'était une des formes de rationalisation de la rumeur par beaucoup des gens avec lesquels nous avons conversé, discuté de cette rumeur, qui était de dire que c'était peut-être juste une viande avariée, même pas forcément empoisonnée de manière intentionnelle, et la personne l'a cuisinée chez lui et l'a mangée. Mais ce qui est intéressant dans le scénario, c'est que le scénario il est très ramassé, très condensé, et il n'élabore pas du tout sur les causes de ce qui tuerait, est-ce que c'est la viande ou est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est l'acte du don ou est-ce que c'est le contenu du don lui-même, et les mécanismes du décès.
Donc celui qui prend en meurt, on ne sait pas combien de temps après, ni comment il est mort, mais il est mort.
Voilà,
c'est ça la rumeur.
Certaines personnes la résument de manière très lapidaire, on te donne, tu prends, tu meurs. Et donc, ramasser autour de cet acte du don qui devient mortel, donc, qui est assez paradoxal, puisque normalement, lorsqu'on vous donne quelque chose, vous en bénéficiez. Surtout là, il y a de l'argent, voilà. Mais là, au contraire, c'est un don paradoxal, un don qui tue.
Comment et pourquoi la rumeur s'est-elle propagée au Sénégal ?
Alors, déjà, comment, avant du pourquoi, elle s'est diffusée très très vite. Nous avons pu reconstituer, évidemment, pas tous les chaînons, mais voir qu'en moins de 24 heures, la rumeur, qui est vraisemblablement en partie soit de la ville de Saint-Louis, soit de celle de Dakar, se diffuse dans tout le pays à travers plusieurs canaux, sur plusieurs médiums, qui sont d'une part évidemment le bouche-à-oreille, mais aussi beaucoup les médias. Que ce soit d'abord la radio. La radio est sans doute le média le plus réactif par rapport à la presse, étant donné les délais d'impression, de rédaction des articles les plus longs. Donc c'est d'abord la radio, notamment des émissions participatives telles que la vôtre, au cours desquelles des auditeurs peuvent témoigner. Et donc, à travers ces émissions-là, en moins de 24 heures, toute la rumeur se répand quasiment dans tout le pays.
La fameuse formule, tu prends, c'est ça, tu prends, tu reçois, tu meurs.
Oui. Hein, on te donne, tu prends, tu meurs.
C'est ça, on te donne, tu prends, tu meurs. Alors évidemment, des journalistes au Sénégal, on est dans un pays démocratique, stable, avec une presse de qualité, ce qui n'a pas empêché la rumeur, c'est intéressant. Des journalistes ont enquêté, personne n'a trouvé la preuve d'une personne morte après avoir reçu cette aumône, hein. Il faut bien le préciser. Pourquoi cette rumeur s'est propagée finalement dans un pays comme le Sénégal ?
Parce que c'était une histoire qui était si bonne à raconter, parce qu'elle était aussi bonne à penser pour les gens eux-mêmes, parce qu'elle posait la question des dons, et notamment de l'aumône, et de la valeur des dons. Et dans un pays comme le Sénégal, qui est musulman à plus de 90%, l'aumône a une valeur religieuse qui est extrêmement importante, mais voilà, qui pose question aussi. Pourquoi les gens donnent-ils ? Sont-ils vraiment si désintéressés qu'ils semblent qu'ils disent l'être ? Et à quoi ça expose de donner ? À quoi ça expose de recevoir ? Et si en fait la personne qui nous a donné quelque chose, si je suis un mendiant, si elle n'est pas si désintéressée que cela, quel peut être son intérêt à donner ? Est-ce que moi, je ne peux pas en fait en pâtir ? Et en fait, c'est un peu ce spectre des possibilités qu'il y a derrière cet acte tout à fait anodin. Dans la ville de Dakar, il y a énormément de mendiants.
Avec d'ailleurs un ras-le-bol social des mendiants, bien que le don soit un acte fort socialement.
Voilà, il y a énormément de mendiants, il y a énormément de gens qui vont donner chaque matin, en sortant de chez eux, quelques morceaux de sucre, des bougies, une petite piécette à des mendiants. Donc, donner et recevoir est un acte quotidien, et l'aumône, d'une certaine façon, met en crise cet acte quotidien, et amène les gens à s'interroger, à se demander, mais en fait, Qu'est-ce que ça veut dire que de donner? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela?
S'interroger sur l'aumône, est-ce que c'est aussi remettre en cause une partie de la tradition musulmane ou pas, du coup, du fait de cette rumeur?
Non, surtout pas la remettre en cause, mais plutôt s'intéresser se poser des questions sur qu'est-ce qu'une bonne aumône et qu'est-ce qu'une mauvaise aumône. Une bonne aumône, c'est justement toujours l'aumône qui se fait selon les canons religieux, une aumône désintéressée qui est faite au nom de Dieu, et la mauvaise aumône, c'est celle qui justement, en fait, serait pour des motifs plus intéressés, voire des motifs égoïstes qui pourraient aller jusqu'à tuer le bénéficiaire de l'aumône.
Quelles ont été les conséquences sur la population au plus fort de la rumeur en janvier 2010 au Sénégal?
Alors la rumeur n'a pas duré très longtemps, mais pendant les 10 jours, 2 semaines où elle a dû durée. C'est pour ça que je disais qu'elle a mis en crise l'aumône, c'est-à-dire qu'aussi bien du côté des mendiants qui recevaient l'aumône que de ceux qui donnaient, il y a une grande méfiance et des gens se sont abstenus de donner, les mendiants sont mis à scruter les aumônes qu'on leur faisait, à ouvrir les sacs plastiques pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc oui, effectivement, tout à coup, ce geste qui allait de soi a cessé de l'être et les gens se sont mis à devenir extrêmement suspects, ce qui du coup a créé des incidents, un certain nombre d'incidents que nous répertorions Julien Bondaz et moi-même dans l'ouvrage.
Alors avec des gens qui ont failli être lynchés, il n'y a pas eu de mort,
mais il y a eu des lynchages, des bastonnades, des violences quand même, effectivement des gens qui soit voulaient donner et ont été accusés, soit parfois même des gens qui se promenaient dans un marché avec un sac plastique noir qui n'avaient absolument pas l'intention de le donner, mais qui, du coup, parce que pour des raisons, parfois de simples circonstances, se sont retrouvés au centre des suspicions et des accusations et ont pu être
violentés. C'est ça, faire son marché devenait dangereux, à la limite, avec son sac de course, ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé à Tiaroy-Gare, dans la banlieue de Dakar?
C'est l'un des cas que nous avons pu vraiment analyser du plus près. C'est un monsieur qui allait faire son marché et qui avait décidé, comme de manière assez classique, de donner de la viande d'un animal qu'il avait fait immoler exprès pour l'occasion en aumône, puisque c'est assez classique au Sénégal, un sacrifice qu'on va faire, on va distribuer par générosité la viande de manière à s'assurer de la bonne santé, de la prospérité de la famille. Donc une sorte de sacrifice propitiatoire, de générosité comme ça qui doit permettre que tout se passe bien ensuite. Et il a voulu le faire au milieu d'un marché, ce qui était assez risqué, puisque un marché, c'est un endroit avec une foule très dense qui est ramassée, où aussi bien les gens que les rumeurs et les accusations et les scandales vont pouvoir circuler extrêmement vite. Et donc, il a voulu donner la viande à des commerçantes qui, étant donné que la rumeur circulait, lui ont dit mais qu'est-ce que tu nous veux ? Elle ne comprenait pas. Et comme ça, de fil en aiguille, le quiproquo, le malentendu s'est noué autour de cela. Et l'homme a été très vite accusé. Une foule s'est rassemblée. Il a manqué vraiment d'être lynché. Il a été sauvé grâce à l'efficacité d'un policier qui justement était en faction pas très loin et qui pour le coup était présent et a pu faire son travail de manière tout à fait efficace, a pu le mettre à l'abri et appeler des renforts et le soustraire à la vindicte populaire qui était certain d'avoir affaire à ce tueur charitable comme on l'appelait.
Mais comment expliquer que ce donateur en pleine rumeur ait fait preuve d'une telle audace finalement?
Parce que lui savait pourquoi il donnait, il savait qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, mais là où effectivement où il y a eu le malentendu, c'est qu'il était sur un marché qui était loin de chez lui, où il n'était pas connu. Et donc lui pouvait dire, mais je fais ça habituellement, c'est tout à fait normal, je fais ça pour le bien de ma famille, et je suis un pieux musulman, mais il avait en face de lui des gens qui ne savaient pas d'où il venait, qui ne le connaissaient pas, et donc c'est sur cette interaction entre inconnus, que tout va déraper.
Ouais, et très vite, en quelques secondes. Et je ne sais plus si c'est lui, ce riche donateur, ou un autre qui brave la rumeur sur les conseils de son marabout.
C'est effectivement...
pas le bon conseil de la part du marabout.
Effectivement, là aussi, c'est quelque chose en fait, d'assez quotidien. Le fait que l'on va aller voir un marabout qui va vous prescrire pour guérir d'une maladie, pour avoir bonne santé, pour avoir bonne fortune, pour avoir des enfants, pour que toute la famille aille bien, un certain nombre de prescriptions, de rituels à accomplir, notamment des offrandes, y compris parfois des sacrifices d'animaux et on va donner leur viande, et donc c'est quelque chose d'assez courant aussi. Et donc, lorsque l'on va recevoir une offrande dans la rue, il y a toujours cette possibilité-là, qu'en fait cette offrande, elle a été prescrite par un marabout au donateur, et que en fait le donateur, il cherche quelque chose en vous donnant cette viande ou cet argent, il y va lui-même de son propre intérêt. Donc ça pose vraiment cette question du désintéressement ou de l'intéressement des donateurs.
Vous nous appelez si vous êtes témoin, victime de rumeurs dans votre ville. 33 1 84 22 71 71. Le message de Richard à Abidjan nous dit que la même année d'ailleurs que la folle rumeur au Sénégal, toujours en 2010, une rumeur en Côte d'Ivoire faisait croire que des hommes en voiture aux vitres teintées, on rejoint aussi là l'imaginaire du 4x4 aux vitres teintées, enlevaient des gens. Résultat, la voiture du directeur de cabinet militaire du ministre Amanine Guessant avait été caillassée. Et en effet, ça avait été tout à fait relaté dans la presse. Les conséquences, elles, de ces rumeurs sont bien réelles et peuvent mener jusqu'au lynchage.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
Ouais.
7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment...
Se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI.
Et la planète se parle.
Alors les rumeurs en zone rurale existent aussi. Nous partons pour la Guinée-Conakry avec notre correspondante. Bonjour Coralie Pierret.
Oui, je suis là, je vous entends Emmanuel.
Bonjour Coralie. Depuis de longues années, des feux bien réels mais d'origine mystérieuse se déclenchent dans une des régions guinéennes qui s'appelle le Fouta de Jalon, qui est aussi le grenier du pays où tout pousse, des cases et parfois des villages entiers sont décimés par le feu. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, alors ce sont les feux mystérieux du Fouta, c'est comme ça qu'on les appelle. Dernier feu en date, c'était début novembre, dans le village de Dungultuma. 75 cases sont parties en fumée. Trois mois plus tôt, il y avait eu aussi de larges incendies à Tangan qui ont ravagé cette fois 200 cases. Alors, saison des pluies comme saison sèche, de jour comme de nuit, 5000 cases auraient brûlé mystérieusement selon les autorités et un peu moins de 30 000 personnes seraient victimes de ces feux depuis le premier qui, toujours selon les autorités, se serait déclenché en 1978.
Oui, le phénomène est très ancien. Alors ça, ce sont les faits. Maintenant, les explications. Pourquoi dit-on que ce sont des feux mystérieux ?
Tout simplement parce que durant ces longues années, personne n'a réussi à trouver une explication. Il y a quasiment autant d'histoires sur l'origine de ces feux que de Guinéens. Il faut dire que le phénomène est troublant. Des témoins rapportent que les flammes réagissent à la voix humaine. Si une personne crie, les flammes augmentent. Autre chose, si on déplace un objet en métal d'une case qui brûle à une autre qui est intacte, cette case intacte s'embrase aussitôt.
On va peut-être commencer par les explications mystiques qui sont avancées par les habitants. Quelles sont ces explications, Coralie ?
Alors, il y a d'abord les théories que l'on peut qualifier entre guillemets de classiques. Hein. Les feux seraient déclenchés par des marabouts, des féticheurs, des dozos, c'est-à-dire des chasseurs traditionnels. Il y a aussi la théorie qui circule à Pita, c'est une des principales localités de la région. C'est la théorie du fantôme vengeur. Ce serait après un enterrement raté d'un imam dans les années 70 que les premiers feux ont démarré. Ce serait l'esprit de ce dignitaire religieux qui viendrait se venger de cet échec. Et puis, il y a surtout la théorie de la sorcière de Pita, une jeune femme qui se changerait en chat avant chaque incendie ou qui les déclencherait, conseillée par un esprit malin et malveillant.
Alors, bien sûr, des scientifiques se sont penchés sur le phénomène de ces feux du Fouta de Jalon en Guinée-Conakry. Il y a eu plusieurs missions qui ont tenté de donner leur version.
Oui, il y a eu des géographes, des géologues guinéens, mais aussi italiens qui ont conclu, et ça c'était il y a quelques années, un excès de soufre dans le sol ou à une pluie de météorites. Mais plus récemment, il y a eu une mission scientifique conduite par des Français. L'enquête date de 2015. Cette fois, les conclusions sont plutôt simples. Hein. La paille qui recouvre les cases du Fouta est souvent humide lorsqu'elle est posée à la construction. Et donc, par un phénomène de fermentation et de chaleur, c'est cette paille qui s'embrase d'elle-même, seule. Et puis, il y a aussi l'enduit qui recouvre les pagnes que portent les femmes du Fouta, qui en fait facilite la propagation du feu, selon le rapport de ces experts français.
Est-ce que ce rapport a réussi à convaincre les populations ?
Pas du tout. Hein, la preuve, à Conakry, quand vous interrogez n'importe qui dans la rue, les Conakrykas sont d'abord plutôt méfiants de la question, puis répondent que justement personne ne sait, que c'est mystérieux, énigmatique. L'incendie de novembre dont je parlais au début a été relayé par la presse locale en parlant encore une fois de mystère sur l'origine des feux. Idem sur une des principales radios privées du pays qui passait en novembre, toujours à propos de ce dernier feu, des appels aux dons pour venir en aide à ces sans-abri victimes de l'incendie.
Merci beaucoup Coralie Pierret, en direct de Conakry. Julien Bonhomme, vous connaissiez ces feux mystérieux du Foutage Jalon?
Absolument pas.
Qu'est-ce que ça vous évoque?
Première chose, déjà, c'est assez différent des rumeurs sur lesquelles j'ai travaillé, puisque là, il y a des faits au départ. C'est ces incendies qui sont avérés. Mais après, il y a tout un ensemble de rumeurs qui vont circuler, qui sont comme autant de spéculations, qui vont tenter de donner du sens et d'essayer de trouver des causes à ces faits-là. En fait, c'est assez classique, finalement, dans toutes les sociétés, lorsqu'il y a des catastrophes, des événements funestes, que ce soit des incendies, que ce soit un attentat, un tremblement de terre, une épidémie, va engendrer tout un ensemble de rumeurs qui vont être autant de moyens pour tenter de représentation collective, pour tenter de donner du sens et de trouver des causes à ces événements qui perturbent de manière dramatique le train de la vie quotidienne.
Nous sommes en ligne Amundu au Tchad avec Médard que nous accueillons. Bonjour Médard.
Oui, je vous reçois.
Oui, Médard, on vous écoute, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins, c'est Emmanuel Bastide.
Oui, chez moi, Amundu, dans le sud du Tchad, il y a de cela une année où j'y étais de passage. Il y a un monsieur qui était traité de sorcier par les villageois parce qu'il aurait fait assez de victimes par le passé. Et dont la dernière victime était une jeune fille de 20 ans. Alors, pour les parents, cette vingtaine était morte par la suite des incantations faites à l'encontre de cette jeune fille par le sorcier présumé. Mm-hmm. Ainsi, les parents de cette victime ont décidé d'en finir avec le sorcier. Alors, les parents de la jeune fille sont allés chez le présumé sorcier pour lui déclarer la guerre. Étant informé aussi de cette situation qui est en train de l'attendre, le sorcier est allé se cacher dans le sous-sol, dans son domicile. Mm-hmm. Mais la colère était tellement élevée pour les villageois et déterminés de l'éliminer aussi, les villageois l'ont poursuivi. Lui aussi, il a fui pour aller dans une église où il en est un dictaire. Finalement, ces villageois l'ont abattu au sein d'une église. Et pour la petite histoire, ce monsieur, le sorcier-là, est abattu de la même manière que son papa, il y a de cela une dizaine d'années, mmh. et par les mêmes villageois.
Ah oui.
Alors, nous sommes en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire, puisque lui, il avait dit qu'il est en train de venger l'assassinat de son père, qu'il s'est livré dans ses actes de sorcellerie, disons. Mmh. Mais ses enfants aussi, de la même manière, sont en train de, peut-être projetons, vont emprunter les mêmes pas et seront abattus de la même manière, donc pour les voisins.
C'est une histoire qui peut durer des siècles, hein, aussi longtemps que la lignée de cet homme présumé sorcier, finalement.
Ça peut durer, disons, parce que lui, il dit qu'il est en train de venger son papa, et au moment où les villageois sont venus chez lui pour le chercher, pour finir avec lui, il avait ramassé ses armes, ses sagaies, et couteaux de jet et autres, pour se glorifier que je suis le fils de tel, et que je vais mourir comme mon papa. Mais pour les enfants qui sont là présentement en train d'assister à l'assassinat de leur papa, vont aussi être révoltés et ça risque de continuer de génération
Bien
en génération.
Bien sûr. Mais pour vous, il s'agit d'une présumée vendetta, d'une rumeur?
C'est pas une rumeur en tant que telle, mais ce jour-là, moi-même, j'étais présent et j'avais filmé la scène. Et le monsieur a été accusé.
Vous avez filmé quelle scène au juste?
J'ai filmé...
Ah, ça, alors là, on est lâché en plein suspense. On ne sait pas si Médard a filmé la scène de lynchage. En tout cas, ce qui est incroyable dans cette histoire, Julien Bonhomme, c'est que l'histoire se poursuit dans la lignée.
Oui, tout à fait. Je voudrais réagir peut-être aussi au premier témoignage au début de l'émission qui venait aussi du Tchad. Je suis pas du tout spécialiste de la société tchadienne, donc mes commentaires seront prudents. Mais là, on a typiquement affaire à des cas de violence et de conflits qui sont liés à des accusations de sorcellerie en milieu villageois. Et on trouve un certain nombre de traits qui sont assez classiques, hein, dans le premier témoignage. L'idée que le sorcier est quelqu'un, ou la sorcière est quelqu'un qui mange l'âme de la personne, donc une représentation assez classique de l'action du sorcier. On voit aussi qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière. Il y a des rapports entre les générations. C'est souvent des vieilles personnes, des personnes âgées qui sont accusées. Donc là, c'est évidemment des rapports entre les générations qui sont en jeu. On voit également que les rapports de voisinage, pour le meilleur et pour le pire, sont également en jeu. Et parfois sur une durée assez longue. Ce que disait bien le second témoignage, c'était déjà son père avait été accusé. Donc on voit bien comment des querelles, des tensions villageoises qui peuvent se construire dans la durée, du coup, cristallisent dans ces suspicions et ces accusations de sorcellerie. Et le dernier point, là, qui était présent dans le premier témoignage, c'est que souvent la motivation qui est prêtée à ces présumés sorciers est de vouloir s'enrichir. Donc la sorcellerie de la richesse, hein, l'idée que c'est l'égoïsme, la vénalité des individus qui finalement, c'est souvent... voilà, motif avéré que des gens sont prêts à tout pour s'enrichir, qui va, sur lequel vont cristalliser ces suspicions-là. Et on voit évidemment, là encore, parfois l'absence, tout d'abord, de la police ou de la justice, qui fait que souvent, ces personnes, en milieu villageois, parfois assez... en l'absence de police ou de justice, vont se faire justice eux-mêmes, en allant jusqu'à lyncher ou tuer.
Plus on est loin de la ville, finalement, et loin des autorités, plus le lynchage peut se faire relativement tranquillement, ou pas forcément?
Oui, alors souvent il y a quand même des brigades de gendarmerie qui sont installées dans la petite ville la plus proche, qui vont intervenir, mais souvent trop tard, après coup, et donc qui vont arrêter les uns et les autres, qui vont mener une enquête pour savoir ce qui s'est passé.
Vous parliez d'argent, on a l'impression que les rumeurs sont toujours liées soit à l'argent, soit à la santé, soit au sexe.
Très souvent, effectivement, le motif de la richesse est très important, et dans la rumeur de l'offrande de la mort, il est central. C'est un individu qui conduit une voiture 4x4 aux vitres fumées. C'est un indice évident que c'est quelqu'un qui fait partie des élites et qui en plus distribue, peut aller jusqu'à donner en offrande 10 000 francs CFA, ce qui est évidemment une générosité bien trop élevée pour ne pas être immédiatement suspecte. Et donc ce qui est en jeu derrière la rumeur, c'est évidemment la défiance des classes populaires sénégalaises, par exemple, vis-à-vis des élites, que ce soit les élites économiques ou les élites politiques, les deux étant évidemment bien souvent liés.
D'ailleurs, également défiance vis-à-vis, ça peut être des étrangers, des occidentaux, des autorités de santé. On a vu ce qui s'était passé au moment d'Ebola en septembre 2014 en Guinée-Conakry. 8 membres d'une équipe de sensibilisation qui avait été massacrés dans le sud forestier à Womé, qui était la région originelle de l'épidémie et d'Ebola. On a beaucoup de faits divers autour de personnel de santé au Malawi, en Afrique en Afrique australe, de faux vampires, mais des lynchages réels. Les Nations Unies sont contraintes de retirer leur personnel dans certaines zones, notamment des personnels de santé qui sont particulièrement visés. On a eu aussi, tout récemment, en novembre dernier à Madagascar, les rumeurs de vaccins contre la peste, un vaccin qui n'existe pas, avec de présumées fausses équipes médicales qui auraient vacciné les enfants de force et les parents qui accourent à la sortie de l'école pour aller rechercher leurs enfants en pleine journée. Voilà, il y a énormément comme ça de rumeurs qui circulent. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 61. 71. Bonjour Rubin, vous êtes à Libreville, au Gabon.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, Rubin.
Et donc, j'appelle de Libreville, au Gabon. Et je voulais faire le témoignage d'une fausse rumeur qui s'est passée au Congo-Brazzaville.
Oui.
Oui, c'était dans les années 2000. Alors, on nous avait dit qu'il y avait une dame qui apparaissait dans la ville et elle arrivait devant chez vous et vous demandait de l'eau. Et elle était accompagnée d'une petite fille. Elle vous demandait de l'eau, et pendant que vous partez chercher de l'eau, lorsque vous revenez, vous ne la retrouvez pas. Vous lui remettez de l'eau.
Oui. Et ensuite, que se passe-t-il?
Lorsque vous revenez avec de l'eau, vous ne la trouvez pas. Entre-temps, elle a disparu.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passait? Maintenant, le soir, chez vous, il y avait un décès.
D'accord. Donc, c'était
on
le...
On avait dit que...
Oui.
Oui.
Allez-y, Rubin.
Pour éviter qu'elle n'apparaisse chez vous, il fallait couper une palme d'un palmier et qu'il fallait planter la palme devant chez vous à la maison. De la sorte, la dame ne viendra pas chez vous.
Merci Rubin de nous avoir appelé pour nous parler de cette rumeur. Alors, ce sont des rumeurs d'ailleurs qui touchent, comme par hasard, assez souvent les femmes encore aujourd'hui, Julien Bonhomme, qui sont accusées de sorcellerie.
Oui, ça dépend vraiment des rumeurs. Celle-ci est focalisée sur cette figure de la vieille dame. C'est intéressant, je l'avais dans mon livre sur les voleurs de sacs, j'en avais parlé. Elle avait circulé au Congo et au Gabon, exactement selon le scénario raconté par l'auditeur. Évidemment, elle met en jeu la question de l'hospitalité. Un inconnu vient vous voir, il vous réclame de l'eau, c'est le geste d'hospitalité élémentaire, on va le lui donner, mais à quoi cela expose que d'ouvrir sa porte, donner un verre d'eau à un inconnu, là en l'occurrence à une vieille dame, et donc là encore on retrouve la question du rapport entre les générations, le fait qu'elle est vieille n'est pas du tout anodin, mais d'autres rumeurs vont toucher plutôt des hommes, y compris dans les accusés. Les voleurs de sexe, c'était plutôt évidemment des hommes qui étaient des victimes, mais aussi des hommes qui étaient accusés. Donc là ça dépend vraiment...
Est-ce que sur le continent africain à l'heure actuelle, les pays dits fragiles, particulièrement pauvres, il y a particulièrement des problèmes de gouvernance, sont plus touchés par les rumeurs que d'autres ?
Honnêtement,
je pense à Madagascar, je pense à la RDC.
Je n'en sais rien du tout. Il faudrait quelque chose qui, il faudrait vraiment un programme de recherche collectif avec des gros moyens pour pouvoir le tester vraiment, de voir essayer d'évaluer quantitativement la fréquence et l'impact des rumeurs dans tel ou tel pays et le corréler à tout un ensemble de paramètres liés à ces sociétés-là en termes de présence de l'État, de niveau de revenu. Et j'ai vraiment pas les moyens de le faire. Et je n'en suis pas complètement certain. Ce qui est vrai, c'est que dans une société où, pour des raisons, par exemple, de faiblesse de l'État, le niveau de violence peut être extrêmement élevé, les conséquences vont être plus fortes. Et les lynchages vont être beaucoup plus.
C'est d'ailleurs pour ça qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de lynchage et de mise à mort.
Le Sénégal est
l'offrande de la mort.
Est un pays qui, à l'échelle du continent, va plutôt bien, d'alternance démocratique, etc. Et en même temps, les rumeurs circulent beaucoup. Et elles circulent beaucoup, notamment parce que les médias les font beaucoup circuler. Donc là, ça témoigne plutôt du rôle des médias dans la société.
C'était un vrai dilemme, d'ailleurs, pour les médias au Sénégal. Est-ce qu'il faut relayer ou pas? Et si jamais c'était vrai, cette viande distribuée, cette aumône par des hommes dans un 4x4 aux vitres fumées, et si c'était vrai, et si on n'avait pas relayé, est-ce qu'on serait coupable de ne pas mettre en garde?
Oui.
C'était un sujet de discussion dans les rédactions, y compris de médias sérieux.
Effectivement, et donc cette enquête sur la rumeur était aussi une manière de travailler sur les médias et le travail de la fabrique de l'information journalistique aujourd'hui au Sénégal. Et effectivement, le champ de la presse au Sénégal est très, très dynamique aujourd'hui et il est clivé entre une presse dite de qualité, souvent héritée des médias d'État, et une presse plus commerciale, de la presse populaire notamment, de type tabloïd. Et donc selon le type de presse, les rumeurs ne sont pas relayées de la même façon, mais dans tous les cas, dans les comités de rédaction, dans les salles de rédaction, lorsqu'on discute de ce qu'on va mettre en une, etc. On se posait la question, faut-il ou non relayer la rumeur? Est-ce qu'on risque de la relancer si on la relaye? Mais en même temps, nous avons un rôle d'information vis-à-vis de notre public. Et donc, c'est toujours des questions qui sont posées. Et c'est ça qui est intéressant aussi de travailler sur ces rumeurs-là, c'est de travailler aussi sur le rôle des médias, à la fois du côté tant de la production que de la réception.
On arrive au terme de cette émission. En un mot, si vous deviez nous dire ce que vous, l'anthropologue, vous apprenez de l'Afrique contemporaine aujourd'hui en étudiant les rumeurs.
Énormément de choses, oui. Travailler sur les rumeurs, c'est travailler sur la persistance d'un certain nombre de croyances ancrées depuis longtemps, mais aussi sur des phénomènes très contemporains, l'urbanisation, les violences populaires, le rôle des médias, le rôle d'Internet.
Et la cohabitation entre voisins.
Voilà, donc c'est extrêmement large, en fait.
L'offrande de la mort, une rumeur au Sénégal, c'est publié aux éditions CNRS, c'est justement une offrande qui n'a pas causé de mort, c'est ça qui est intéressant. Merci à vous tous et à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'histoire de la jeunesse délinquante. Adolescents fugueurs, adolescents chapardeurs, vauriens en tout genre, jeunes délinquants ultra-violents, quand des enfants ne suivent pas le chemin indiqué par la société. Alors que faire de ces mauvaises graines? De tout temps, les adultes se sont posé cette question. Nous en parlerons en compagnie de deux historiens qui retracent deux siècles d'histoire de la justice des mineurs. On regardera dans le rétroviseur pour décrypter l'histoire de ces enfants pas comme les autres en France, avec les réponses judiciaires, enfermement, redressement, éducation, protection. Faut-il éduquer ou punir? À demain les voisins.